C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
Talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Eau de Radio en ce mardi 31 mars 2026. Il est 14h pile, oui. Encore comme hier et comme demain sans doute. Si vous nous suivez attentivement, vous vous êtes rendu compte qu'à Cinescent, nous aimons aller au cinéma. On pourrait y passer notre vie. Et on a de quoi. Tenez, en 2023, près de 9000 films sont sortis dans le monde, ce qui veut dire qu'il nous faudrait en visionner plus de 25 par jour pour tous les voir. C'est d'ailleurs l'Inde qui en produit le plus en 2023. Il en a produit 2500. Vient ensuite la Chine avec 800, le Japon et les États-Unis. La France, quant à elle, en a produit 298. Bref, l'univers cinématographique est riche en nombre, mais aussi en qualité. Pour le vérifier, j'ai avec moi un de mes complices habituels. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Annelise et bonjour Annelise.
Vous allez bien ?
Et vous ?
Oui, ça va. On fait un bonjour à Patrick qui est malade aujourd'hui. Il est absent, tout à fait.
Il reviendra dans 15 jours.
Et oui.
Et vous oubliez quelqu'un. Quand même.
Et on dit bonjour aussi à Lorane qui nous fait la régie. Bonjour Lorane.
Elle est là, elle a levé la main.
Oui, elle a dit bonjour. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 22 de Cinescent, retour non pas en 2023, mais en 2001, pour le pire et pour le meilleur.
Cette année-là. Oui, alors cette année-là, pour commencer, le 15 janvier, démarre aux États-Unis une encyclopédie numérique en ligne très connue, je ne vais pas citer le nom, hein, mais sa lecture nous apprend que George Bush Jr. devient officiellement le 20 janvier le 43e président des États-Unis. Bush père avait devancé son fiston en étant le 41e. Le 26 janvier au matin, un tremblement de terre dévastateur secoue le nord-ouest de l'Inde. Trois jours après le séisme, le ministère de l'Intérieur indien a fait état de 6246 morts, mais d'après le chef du gouvernement de l'État de Gujarat, ce bilan pourrait atteindre les 100 000 morts.
En février, à Boulogne-sur-Mer débute l'instruction de l'affaire d'Outreau, une affaire d'abus sexuels sur mineurs. Elle débouchera sur un constat d'erreur judiciaire donnant l'occasion de souligner certains dysfonctionnements de la justice.
Et alors dans les joyeusetés, le 3 mars, sur ordre du chef suprême des talibans, il est procédé à la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan, en Afghanistan. C'est 1600 ans d'histoire qui disparaissent. En 67, l'écrivain et journaliste Joseph Kessel nous amenait à la découverte du site des Bouddhas de Bamiyan.
Un peu plus bas s'ouvre la prodigieuse vallée de Bamiyan. Soudain, au creux d'une vertigineuse muraille de roc, toute droite, presque lisse et si rouge qu'elle semble teinte du sang le plus pur, on aperçoit une entaille façonnée de manière à former une niche colossale. Un abri rectangulaire qui n'est plus à la mesure humaine, mais à celle des divinités. Et au fond de cette ouverture géante, un Bouddha veille dont la stature dépasse 50 mètres. C'est que, par là, le bouddhisme venant de l'Inde avait pris le chemin de cette haute vallée pour pénétrer en Extrême-Orient et gagner à sa fois le Tibet, la Chine, le Japon.
C'était magnifique,
et oui,
et le discours qui était tenu était magnifique aussi, mais il n'y a plus rien. Voilà.
Dans les années 2000, ouais, l'Espagne revient sur le devant de la scène du fantastique en produisant des films inspirés notamment par le cinéma américain gothique. Ces films sont dus à une nouvelle génération de réalisateurs et ils vont rencontrer un large succès international. Les fantômes en sont le thème prépondérant. En 2001, Alejandro Amenábar réalise Les Autres. Nous sommes en 1945 sur l'île de Jersey. La guerre est finie. Grace, une jeune femme pieuse qui attend le retour de son mari porté disparu, vit seule dans une immense demeure victorienne isolée avec ses deux enfants, Anne et Nicolas, qui souffrent d'une maladie génétique. Une allergie à la lumière du jour les oblige à vivre en permanence dans la pénombre. Ils vivent donc reclus dans leur manoir obscur, tout rideau tiré.
Et un jour d'épais brouillard, trois domestiques se présentent à la porte, bien qu'aucune annonce n'ait été publiée. Grace, qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc, ainsi que d'une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Mais dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure. Anne invoque l'existence d'un intrus qui aurait ouvert les rideaux. Grace elle-même entend des bruits de meubles déplacés. En fouillant la maison, elle trouve un album des précédents occupants photographiés morts. Elle ne tarde pas à découvrir que d'autres visiteurs, des fantômes, menacent la tranquillité de la demeure. Bande annonce.
Je commence. Comme vous le voyez, le ménage a été assez négligé depuis que les domestiques ont disparu il y a 8 jours.
Les domestiques ont disparu ?
Volatilisés. Peut-être devrais-je vous présenter aux enfants.
Vous allez nous quitter, vous aussi ?
Pourquoi est-ce que je vous quitterai ?
Oui, c'est ce qu'ont dit les autres. Mais ils nous ont quittés et c'est arrivé après.
Mes enfants ont parfois des idées excentriques. Mais n'y prêtez pas attention, s'il vous plaît. Ce ne sont que des enfants.
Pourquoi tu as ouvert les rideaux ?
C'était Victor.
Tu as dit à ton petit frère qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre.
C'est vrai !
Arrête, Anne. Qu'est-ce qu'il y a ?
Moi aussi, je les ai vus.
Vous les avez vus ?
Je crois, enfin il me semble, que le monde de l'au-delà rencontre parfois le monde des vivants.
Il y avait des voix, un petit garçon, il parlait avec deux femmes.
Maman,
je les ai entendus tous les trois.
Ils sont partout, ils disent que la maison leur appartient.
Non !
T'entends toi aussi ? Il y a quelqu'un dans la pièce.
Tôt ou tard, ils vous trouveront.
De ma fille.
C'est moi, je suis ta fille.
À l'image du manoir victorien, Amenabar a très certainement puisé son inspiration chez Alfred Hitchcock. Le personnage joué par Nicole Kidman se prénomme Grace, clin d'œil évident à Grace Kelly, artiste présente dans 3 films de Sir Alfred. Dans ce rôle de Grace, frisant l'hystérie, la prestation de Nicole Kidman est exceptionnelle.
On peut le dire.
Et oui, les autres puisent, c'est évident, dans le folklore des films de fantômes et lorgnent volontairement vers les histoires de maisons hantées. Une idée très forte justifie à elle seule le film. L'obscurité devient ici la condition de salut des enfants malades et de leur mère protectrice.
Bon alors, Amenabar nous livre une œuvre personnelle, n'est-ce pas subtile, et particulièrement brillante, jouant habilement avec nos nerfs et délivrant un climat de tension et de peur incontestable. Et puis surtout, on ne s'attend pas du tout au dénouement final, n'est-ce pas ?
Ah bah c'est sûr.
Bah on va pas vous le dire.
Bah non pas, ce serait dommage.
L'action du film est censée se dérouler sur l'île de Jersey, mais le tournage s'est déroulé sur la côte ouest de l'Espagne, n'est-ce pas ? Dans un manoir, mais qui possédait le style des vieilles propriétés anglaises.
Signalons que c'est Tom Cruise qui s'est engagé en tant que producteur exécutif du film dans la bande originale. On retrouve la valse opus 69 numéro 1 de Chopin, autrement appelée la valse de l'adieu.
C'est plus facile.
Oui.
Eh bien, nous voici arrivés au deuxième trimestre 2001. Et celui-ci nous transporte le 1er avril aux Pays-Bas, qui deviennent le premier pays du monde à reconnaître le mariage entre conjoints de même sexe. Le 25 avril, le tueur en série Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour une vingtaine d'agressions et pour le meurtre de 7 jeunes femmes.
Toujours en avril, le 28, le multimillionnaire américain Denis Tito devient le premier touriste à voyager dans l'espace. Pour ce faire, il a réglé 20 millions de dollars à l'agence spatiale russe pour un vol de 7 jours. Le 10 du mois de mai, sous la présidence de Jacques Chirac et sur proposition de la députée Christine Taubira, le Parlement français vote une loi qualifiant la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
Ah bah, il était temps.
Et oui. Enfin, le 14 juin, plus de 600 000 Algériens défilent à Alger. Cette journée fait suite au massacre perpétré en Kabylie où le pouvoir a réprimé dans le sang la révolte de jeunes manifestants qui exprimaient leur colère suite à la mort par balle d'un jeune lycéen. Eh bien, l'histoire retiendra l'événement comme celui du printemps noir.
Les organisateurs voulaient une marche historique. Elle le fut. Mais elle fut aussi une marche noire, de par la grande mobilisation qu'elle a suscitée, mais surtout par ses conséquences dramatiques. On dénombrera des dizaines de morts et des centaines de blessés, causés par l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place par le pouvoir. L'inquiétude de cette jeunesse révoltée concerne tous les Algériens qui luttent pour une impartialité justice sociale, le droit à la citoyenneté et que cesse la corruption d'hommes assoiffés de pouvoir. Cette jeunesse souhaite que ce pays reste uni et que cette union s'étende à toute l'Afrique du Nord. La priorité des Kabyles reste cependant la reconnaissance identitaire. Après le printemps berbère, le printemps noir confirme que la jeunesse kabyle a vaincu la peur. Ils le disent, ils ne peuvent pas nous tuer car nous sommes déjà morts. Cette jeunesse kabyle revendique un nouveau projet de société, le droit à la citoyenneté et un pluralisme aussi bien politique que culturel, où la tradition se conjugue avec la modernité. À leurs yeux, le pouvoir en place et les partis d'opposition n'ont plus aucun sens.
Alors vous savez, Anne-Lise, que 2001, c'est une année charnière pour le cinéma. Ça, on le sait, quoi. Une année où les salles obscures voient apparaître des univers qui vont marquer toute une génération. Cette année-là, un petit garçon à lunettes rondes monte dans un train à destination d'une école de sorcellerie.
Ooh.
Alors, le film s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. C'est un film de Chris Columbus. Et sans que personne ne le sache encore, il ouvre la porte à l'une des sagas les plus lucratives de l'histoire du cinéma. Avec près d'un milliard de recettes, la magie opère immédiatement. Et quelques semaines plus tard, un autre voyage commence, mais cette fois direction la Terre du Milieu. Avec le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, Peter Jackson parie sur l'impossible. Adapter une œuvre réputée inadaptable. Résultat, un triomphe critique et public et le début d'une trilogie devenue mythique, n'est-ce
pas ? Eh oui, mais en 2001 ne se résume pas des dragons, des elfes et des baguettes magiques, est d'accord. Le cinéma, c'est aussi se faire plus intime. En France, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, illumine les écrans avec son pari poétique et ses petits bonheurs quotidiens. Le film devient un phénomène mondial et offre au cinéma français l'un de ses plus grands succès internationaux. Pendant ce temps, à Hollywood, un film discret va bouleverser la saison des récompenses. A Beautiful Mind, signé Ron Howard, raconte l'histoire vraie d'un mathématicien, John Nash. Aux Oscars 2002, le film remporte la statuette du meilleur film et consacre l'actrice Jennifer Connelly. Et puis, il y a ces films qui prennent leur temps avant d'être aimés. Comme Donnie Darko. Vous savez, cet étrange récit de science-fiction avec un adolescent tourmenté et un lapin géant inquiétant. Sorti dans une relative indifférence, le film deviendra au fil des années un véritable classique et il devient culte.
Absolument. Mais alors, 2001, c'est aussi une année importante pour l'animation. Alors, désolé pour vous, Annelise, ce ne sera pas l'animation japonaise, mais les studios Pixar.
Très bien aussi.
Qui frappent, tac, fort, avec Monstres et compagnie. Un film qui repousse les limites de l'animation numérique, n'est-ce pas ? Et puis, il y a l'ironie, l'humour, l'insolence. Avec Shrek, le conte de fées est joyeusement bousculé. L'ogre vert devient une star mondiale et le film inaugure une nouvelle façon de raconter les histoires pour les enfants, pleine de références et évidemment de second degré.
Mais comme chaque année, tout n'est pas une réussite. Oula, bien sûr, heureusement sur 9000 films, certains films promettaient monts et merveilles.
Oui.
Promettaient.
Oui, pareil, oui.
Avant de laisser le public un peu sur sa faim.
Par exemple.
Eh bien, le cas de Pearl Harbor, la superproduction de Michael Bay.
Ah, oui.
Beaucoup d'explosions, de romance aussi, et des critiques plutôt sévères. Eh bien, même Tim Burton divise avec sa relecture de La planète des singes.
Ouais.
Ah bon, alors c'était un film attendu qui laisse par contre le spectateur assez perplexe, surtout à cause de sa fin très énigmatique.
Alors tout ça fait que on regarde dans le rétroviseur et on voit 2001 qui apparaît comme un moment particulier. Une année où finalement, le cinéma nous rappelle qu'il sait faire de mieux, ce qu'il sait faire de mieux, n'est-ce pas ? Nous faire voyager.
Eh oui.
De la Terre du Milieu aux rues de Montmartre, en passant par les couloirs de Poudlard. 2001, c'est aussi l'année de sortie de collection 1974-1983, un double album compilation d'Alain Souchon, d'où est tiré « S'asseoir par terre ».
Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Le temps d'un jean et d'un film à la télé, on se retrouve à 28 balais, avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Puis le temps qu'on est sur pilote automatique, qu'on fait pas nos paroles et pas notre musique, on a le vertige sur nos grandes jambes de bazar, alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. J'appuie sur la gâchette accélérateur, y'a que des ennemis dans mon rétroviseur. Au-dessus de 180, je perds la mémoire, alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. La nuit je dors debout dans un RER, dans mon téléphone tu sais j'entends la mer. Y'a pas le soleil dans ma télé blanche et noire, alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Oui,
c'est dingue. Hein.
Ça peut.
Bah, on l'a reconnu, ce petit jingle.
Ah, je croyais que vous parliez de la personne qui parlait. Non.
Oui, aussi. Hein. Bon, alors, c'est pour savoir ce qui passe à la télé cette semaine.
Dans la semaine à venir?
Oui, tout à fait.
Ce qu'on a envie,
nous, on regarderait, oui. Ce qui pourrait être bien de regarder.
Oui, très bien. Alors, comment on fait?
Je sais pas. Vous commencez?
Je commence.
Allez.
Alors, des films sur le Vietnam, il y en a beaucoup. Hein.
C'est vrai.
Il y en aura encore, certainement. Mais celui que j'ai retenu, moi, est assez exceptionnel. Hein. Il passe dimanche soir, 5 avril, à 20h50, sur Ciné Plus Festival. Et c'est Voyage au bout de l'enfer, film de Michael Cimino, qui date de 78. Alors, de quoi est-il question dans ce film? Eh bien, nous sommes dans une petite ville industrielle de Pennsylvanie. Bon, la sirène annonce la fin du travail pour les ouvriers. Et on retrouve 5 de ces ouvriers de l'équipe de nuit, Michael, Nick, Steven, Stanley et Axel, qui se retrouvent au bar de leur ami John. Et là, ils s'apprêtent à fêter le mariage de Steven avec Angela. Et ça, c'est le côté intéressant, festif. Mais aussi le départ de Mike, Steve et Nike au Vietnam. Et alors, le film verse aussitôt, sans transition, dans la brousse, la menace de l'ennemi. Et les trois sont faits prisonniers dans des cages à moitié immergées dont on ne sort que pour les obliger à jouer avec, à la roulette russe, vous savez, ce jeu mais stupide. Oui. Bon, ils vont finir par s'évader en abattant leur gardien et il leur faudra désormais réapprendre à vivre libre. Voilà, c'est un film sur le désastre qu'entraîne la guerre, mais aussi les désastres qui suivent la guerre, sur les mentales des vétérans de cette guerre du Vietnam comme de vétérans de beaucoup de guerres. Quoi. Voilà, c'est dimanche soir, 20h50. Alors, je ne vous ai pas cité là pour la distribution, c'est pour ça que vous me la demandez.
J'allais vous le dire, mais...
Donc, c'est Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, Meryl Streep, John Cazalet, voilà. Donc, 5 avril, 20h50, Ciné Plus Festival, à vous.
Eh bien, très bien, et ben moi, on va... c'est le 304... Donc c'est au mois d'avril, n'est-ce pas? C'est vendredi soir, un film de James Mangold avec Russell Crowe et Christian Bale qui s'appelle 3h10 pour Yuma.
Ah oui, d'accord, un western.
Un western où on va suivre un fermier qui va avoir pas trop le choix suite à une... plus ou moins mauvaise rencontre, il va devoir escorter un criminel jusqu'au train, jusqu'à Yuma, justement. Et d'accord. Le train est à 3h10.
Faut pas le rater, hein.
Donc, il ne faut pas le rater. Bien sûr, on va suivre leur péripétie. C'est un western, nouveau western, on va dire, ouais. Vraiment bien. Et autant Christian Bale que Russell Crowe sont vraiment à leur place.
Vous aimez bien Russell Crowe.
Et, oui, j'aime beaucoup. Bah, Christian Bale aussi, je trouve qu'il est pas mal. Hein.
Et donc, excellent dans American Psycho.
Tout à fait. Ah ben oui, tout à fait. Bon. Et donc, c'est sur Paris Première à 21h, oui. Vendredi, d'accord. Le 3, et ça s'appelle 3h10 pour Yuma.
Voilà. Et comme Patrick n'est pas là...
Vous en avez un autre.
Je vais vous en proposer un autre.
Ah ben, parfait.
Alors, c'est vendredi 3 avril, 304, comme vous dites, si habilement. Mais là, c'est à 21h05 sur France 5. L'Enfer, de Claude Chabrol, film de 94. Alors, donc, on suit Paul qui, à 35 ans, a tout pour être heureux, n'est-ce pas? Il est propriétaire d'un hôtel, il vient d'épouser une superbe jeune femme qui s'appelle Nelly, qui lui donne très vite un petit garçon. Voilà, les affaires vont bien. Il y a une clientèle qui afflue avec beaucoup d'habitués, un cinéaste amateur, un vieux couple amoureux. Et Martino, le beau garagiste de la ville voisine. Voilà, alors, Paul travaille comme un fou, ne dort plus. Sans somnifère, il se montre de plus en plus nerveux. Et parfois, il entend même sa propre voix qui se moque de lui. Et un jour, il surprend Nelly avec Martino, dans un salon plongé dans l'obscurité. Voilà. Alors ça, c'est sur les ravages, sur la schizophrénie un peu, la paranoïa beaucoup, et sur les ravages de la jalousie. Et comme toujours avec Chabrol, c'est dans la bourgeoisie, la hôtelière, mais bourgeoisie quand même provinciale. Voilà. C'est L'Enfer, vendredi 3 avril, à 21h05 sur France 5. C'est
eh bien,
pas mal.
Très bien.
Qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, on va continuer.
Allez, on continue en 2001.
En 2001. Alors, eh bien, grande découverte le 19 juillet au Tchad.
Ah.
Celle de Toumaï, un crâne fossile d'une nouvelle espèce de primate dont l'âge est estimé à environ 7 millions d'années.
Oh, il est vieux.
Et il est fait, n'est-ce pas?
Pendant ce temps, le chirurgien sud-africain Christian Barnard décède le 2 septembre. Celui qui effectuait la première transplantation cardiaque le 3 décembre 67 ne connaîtra pas une avancée majeure pour la chirurgie. En effet, 5 jours après son décès, une intervention chirurgicale est réalisée à 7000 km de distance entre la patiente qui est à Strasbourg et le chirurgien à New York, avec l'aide du robot Zeus.
Le 11 septembre, deux avions de ligne piratés par des terroristes ont percuté les deux tours géantes du World Trade Center à New York.
Ouais.
Un avion s'écrase également à Washington, sur le Pentagone. Un autre en rase campagne, en Pennsylvanie. Le terroriste Oussama Ben Laden, chef du réseau terroriste Al-Qaïda, est accusé d'avoir organisé ces attentats suicides qui ont fait 2976 morts.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me rappelle exactement où j'étais.
Moi aussi.
C'est vrai.
Ça fait partie des événements qui marquent comme ça, où on sait ce qui s'est passé. On sait où on était à ce moment-là.
Et alors, comme une catastrophe ne suffit pas, 10 jours plus tard, dans la banlieue sud de Toulouse, là aussi je sais exactement où j'étais à ce moment-là, un stock de 300 tonnes de nitrate d'ammonium explose dans l'usine pétrochimique AZF. Et elle fait 31 morts et plus de 2500 blessés. Écoutez le témoignage d'une aide-soignante.
Une première secousse au moment où j'allais lever un patient. Quelques secondes après, ça a re-explosé. Nos pieds se sont soulevés de terre. Pas de peur. En fait, je pense que c'est un obus à oxygène qui a explosé à l'étage inférieur. On allume les télévisions des patients. On entend les médias dire « AZF a pété ». Et moi, dans ma tête, je pensais à mon fils. Mon fils qui était à 200 mètres de l'usine AZF. Le papa de mon fils est allé le récupérer dans l'après-midi. Les gens, ils partaient, les voitures rechargées. C'était l'exode, quoi. Les gens, ils partaient de chez eux. J'ai pas vécu la guerre. Mais là, c'était comme si c'était la guerre, en fait. Quand j'arrive ici, les murs de ma maison étaient droits. Les vitres cassées, la porte du garage en 8. Mais là-haut, bon, c'était ouvert, à ciel ouvert. Les plafonds tombés. Mais nous, on était en vie.
En avril 91, l'agent de la CIA, Tom Bishop, est arrêté par l'Armée populaire de libération. Ce dernier tentait de faire évader un prisonnier d'un établissement pénitentiaire non loin de Suzhou. Alors que la région est en pleine épidémie de choléra, lui et ses complices s'étaient fait passer pour de l'aide humanitaire afin de s'introduire dans la prison. Cet événement tombe au plus mal. Le président des États-Unis s'apprête à réaliser un important voyage commercial en Chine pour renforcer les relations entre les deux pays. Après la guerre, la fin de la guerre froide, n'est-ce pas ?
Eh bien, voilà le point de départ de Spy Game. Oui. Un film d'espionnage dans la pure tradition des films d'espionnage.
N'est-ce pas ?
Et oui, Bishop étant une tête brûlée, doublée d'un agent au courage et à l'analyse exceptionnelle. Il faut dire qu'il a été à bonne école avec son agent instructeur, Nathan Muir, son ancien officier traitant. Accusé d'espionnage, Tom sera exécuté dans les prochaines 24 heures. Les hauts dirigeants de la CIA craignent une crise internationale, refusent de se porter à son secours.
Bien sûr.
Eh bien, oubliant les rancœurs du passé, Nathan va se lancer dans sa mission la plus personnelle et la plus dangereuse pour tenter de sauver la peau de l'un de ses meilleurs hommes. Mais fort heureusement pour le film, tout ne se passe pas comme Muir et Bishop l'auraient souhaité. Les Chinois mettent la main sur l'agent et l'enferment. Muir, qui part en retraite dans la soirée, n'a que peu de temps pour tenter de faire libérer Bishop. Il va devoir user de son intelligence et de son expérience pour parvenir à ses fins. Bande-annonce.
Tu as appris à tirer où ? Chez les scouts. Tu plaisantes ? Pas du tout. Je peux faire de toi un agent.
Un agent de la CIA.
Tu travailleras pour moi incognito.
Montrez-moi un autre exemple.
Celui-là, là, sur le banc.
Individu suspect, c'est un type dangereux.
Celui avec le pull gris.
Un pull gris. Un pull gris. Un pull gris.
Regarde toujours ce que tu as en face de toi.
Bon. Le pull gris. QI très limité. Hygiène déplorable, grossier avec les femmes. Très dangereux.
Vous travaillez pour la CIA. Qui est votre contact ?
Je n'ai pas de contact. Un espion, ça boit pas du martini ?
Du scotch et au moins du 12 ans d'âge. Ne risque jamais ta vie pour un agent. Fais toujours passer le business avant le plaisir.
Pour qui travaillez-vous ?
J'en sais rien.
Vos liens avec le prisonnier ?
Aucun.
Menteur !
Je te donne un ordre, tu l'exécutes. Un point, c'est tout. Plus de questions, maintenant.
Ne prenez pas les gens pour des pions. C'est pas un jeu.
Mais si, c'est un jeu. Sérieux et dangereux, où tu n'as pas le droit de perdre. Si tu vas trop loin, je ne viendrai pas te chercher.
Oh non. Le film et le déroulé de l'opération menée par Muir nourrit des flashbacks mettant en évidence la relation plus que professionnelle entre les deux agents. Robert Redford y était attaché depuis 1998 quand le film a enfin pu se faire. Au départ, il devait être réalisé par Mike Van Diem, mais le studio a préféré le proposer à Tony Scott, habitué aux grosses productions et qui avait remporté un beau succès avec Ennemi d'État, un autre film d'espionnage.
Alors, il a souvent été reproché à Tony Scott, qui est le frère, je crois, de Ridley Scott.
Il me semble.
Oui. On lui a reproché de faire des mises en scène au rythme effréné. Ici, il se montre plutôt posé, mais on y trouve quand même de l'action, n'est-ce pas ? Et ironie du sort, ceux qui ont fait ce reproche à Tony Scott ont trouvé que le film n'était pas assez rythmé. Voilà. Alors, en voyant la dimension politique, il est aisé de comprendre pourquoi Redford était attaché à ce projet, n'est-ce pas ? Et outre la géopolitique, le film dénonce la manipulation et le manque de loyauté de la CIA envers ses hommes. On ne peut pas ignorer la prestation des deux comédiens principaux de cette fable morale. Robert Redford, dont en vieux lion fatigué et usant de toutes les ficelles du métier pour parvenir à ses fins, il y est très convaincant. Tout comme son jeune alter ego, un jeune qui s'appelait, qui s'appelle toujours, Brad Pitt, vous voyez qui c'est
rapidement, oui.
La fougue de ce dernier évoque ce qu'a été Muir dans son jeune temps, un agent impétueux et décidé. Voilà, le flambeau est transmis.
Allez, une petite anecdote.
Sur le film ?
Oui, sortie du film le 21 novembre 2001 a failli être annulée du fait de la proximité des attentats du 11 septembre et de la présence d'un attentat suicide dans le scénario.
Ouais.
Bon, après une projection test, la séquence a été remontée. Et oui, la musique a été composée par Harry Gregson-Williams. Autre morceau présent dans le film, l'Allegro du concerto Le Printemps de Vivaldi.
Alors, l'actualité du quatrième trimestre 2001 se concentre sur le mois de novembre, le 15, en France. Le gouvernement annonce l'implantation d'un troisième aéroport de Paris, mais dans la Somme. 70 000 hectares vont être sacrifiés, 4 communes rayées de la carte. Or, cette terre fut le théâtre de combats lors de la Première Guerre mondiale. 1,3 million de soldats tombèrent au champ d'honneur, reposant à jamais dans des cimetières militaires qu'il faudrait profaner. Non, mais dites donc, l'implantation et sa décision sera annulée par le gouvernement suivant, et tant mieux.
Le 27, des oui. scientifiques découvrent une planète géante dans c'est la constellation vrai. De Pégase. Bon, alors, je calme tout de suite vos ardeurs oui. éventuelles de voyage.
Quand est-ce
hein. qu'on part ? Ben, pas tout de suite, parce que cette planète est dotée d'un air à 1200 degrés, s'il
ah
vous
oui,
plaît.
Ça fait un peu trop, ouais.
Ça fait un peu chaud.
Pour
et elle jeux, est située à, 153 années-lumière de la Terre. Donc, oui. c'est pas à côté, à côté, à oui. côté. Bon, je rappelle hein, qu'une année-lumière équivaut à peu près à environ 9,5 milliards de kilomètres.
Oui, même avec beaucoup de RTT, on n'y sera pas.
Ouais, on ne fait ça pas l'aller-retour. Hein. Et puis bon, pour brûler là-bas...
Oui, c'est pas intéressant. C'est pour faire cuire les œufs, peut-être.
Ouais, peut-être, ouais.
Alors n'oublions pas que le 27 juin, décédé à Los Angeles à l'âge de 76 ans, l'immense acteur qui était Jack Lemmon, du début de sa carrière en 54 jusqu'à son dernier film en 2000... Il aura mis son talent au service de 56 films, 6 fois nominé aux Oscars. Il remportera la statuette à 2 reprises. Son CV compte également 3 Golden Globes et 2 prix d'interprétation au Festival de Cannes.
J'ai appelé maman. Elle en a pleuré de bonheur. Elle veut que vous portiez sa robe de mariée en dentelle.
Oh non, je ne peux pas me marier dans la robe de votre mère. Elle et moi... Nous ne sommes pas bâtis pareil.
On fera faire des retouches.
Oh non, pas de ça surtout. Ascoot, je serai franche avec vous. Nous ne pouvons pas nous marier du tout.
Pourquoi?
Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde.
Pas d'importance.
Je fume. Je fume comme un sapeur.
Ça m'est égal.
Mon passé n'est pas beau. Je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone.
Je vous pardonne.
Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant.
Nous en adopterons.
Vous ne comprenez pas, Scoot.
Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
On aura reconnu Jack Lemmon dans certains Lame Show, n'est-ce pas? Le
oui,
film,
incroyable scène, génial.
La dernière scène, la scène finale. Quoi. Alors, le 20 mai 2001, La Chambre du Fils remporte la Palme d'Or du 54e Festival de Cannes. Après Aprile en 98, dans lequel il célébrait la naissance de son fils, le cinéaste italien Nanni Moretti imagine la perte d'un enfant. Nous sommes à Ancône, petite ville du centre de l'Italie. Giovanni, interprété par Moretti, mène une vie paisible, entouré de sa femme Paola et de ses 2 enfants déjà adolescents, Irène, l'aînée, et Andrea, le cadet. Giovanni est psychanalyste. Dans son cabinet qui jouxte son appartement, ses patients lui confient leur névrose qui tranche avec le calme de sa propre existence réglée par un tissu d'habitude, lire, écouter de la musique et s'épuiser dans de longues courses à travers la ville. Un dimanche matin, Giovanni est appelé en urgence par un patient. Il ne peut aller faire du jogging avec son fils, comme il le lui avait proposé. Andrea partira faire de la plongée avec ses copains. Il ne reviendra pas.
Le sujet invite au pathos, mais Moretti le détourne avec subtilité. Il parvient à donner au film une intensité dramatique poignante, sans jamais ne serait-ce qu'effleurer le mélodrame. La construction du film lui permet de mettre en parallèle le bonheur familial et le déchirement tragique. Ce deuil, Moretti le conçoit certes, non sans effroi, mais avec une tendresse tout à fait déchirante. Loin de s'abandonner au plaisir voyeur qui pourrait solliciter la misère de ses personnages, eh bien son approche minimaliste donne au film une portée empathique
oui.
résonante. Écoutez le témoignage sur le film de Nanni Moretti, de l'actrice Laura Morante et de des spectateurs de la première projection au Festival de Cannes.
La plus grande difficulté quand on aborde les thèmes de la douleur, du deuil et de l'absence, c'est d'éviter le pathos et le mélo. J'ai dû beaucoup travailler les dialogues pour arriver au réalisme et à la vérité de l'interprétation.
Ce qui m'a séduit, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire la délicatesse et la vérité. Traiter un sujet comme ça, sans être manipulateur, c'est pas forcé, c'est pas faux.
Et c'est justement pour cela que ce film bouleverse. Rien n'est appuyé, tout est suggéré. Ce matin, à la sortie de la première projection, les spectateurs ne cachaient pas leur émotion.
On sort de là, on est un petit peu retourné.
Non, je peux pas en parler justement, parce que ça me touche beaucoup trop.
C'est très très subtil, c'est par petites doses.
et c'est une réussite.
Giovanni, qui était quotidiennement en contact avec la douleur de ses patients, se trouve confronté à l'épreuve la plus difficile qui soit, celle de la perte d'un enfant. Toutes les théories deviennent impuissantes et il devra arrêter de travailler. Il va essayer de retrouver le passé, de revivre cette fameuse journée du dimanche en imaginant ce qui aurait pu être évité si. Giovanni n'accepte pas cette mort dont il se sent indirectement responsable. Moretti ira jusqu'à montrer comment la mort d'un enfant peut devenir une menace de séparation ou de rupture au sein de la famille même. À côté de Giovanni, il y a sa femme Paola. Laura Morente est remarquable dans ce rôle de mère qui, dans sa souffrance, s'accroche à tout ce qui peut lui rappeler son fils.
Chef de file du renouveau du cinéma italien, Moretti tourne une page de son histoire avec un film bouleversant et qui a recueilli la faveur du public et de la critique. D'ailleurs, le gagnant de la Palme d'Or 2001 est un drame intelligent, remarquable, bien rythmé, exemplaire dans le traitement de son sujet. La chambre du fils est une réflexion d'ordre intime, une œuvre délicate et pleine d'émotions. Aucun voyeurisme sentimental, pas de mélodrame.
Alors, en plus de la musique de Nicola Piovani, Nanni Moretti a choisi des chansons particulières pour le film dont Insieme a te non ci sto più, qui veut dire « Je ne suis plus avec toi », écrite par Paolo Conte et chantée par Caterina Caselli.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, cerca guardo le nuvole lassù e quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più.
Bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Alors vous avez pu remarquer, Annelise, qu'il nous arrive de temps en temps de bafouiller dans l'émission.
Oui, rapidement quand même. Mais, hein. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Oui,
mais très peu finalement, comme on pourra le constater lors de la dernière émission de la saison. Avec tous les participants, y compris Patrick, évidemment, qui n'est pas le dernier à bafouiller.
Bah, bien sûr.
Bon, alors le petit générique nous annonce que nous allons rentrer dans la séquence les sorties de demain. C'est-à-dire que demain matin, traditionnellement en France, sortent les films, tous les films. Beaucoup de films.
Enfin, beaucoup de films.
Et tous. Alors, on en a choisi un chacun qu'on oui. peut conseiller d'aller voir en sachant très bien qu'on ne les a pas vus puisqu'ils ne sortent que demain. Bon, donc vous, Anne-Lise, qu'avez-vous choisi
Moi, j'ai choisi un film qui s'appelle Silent Friend de Ildiko Enaidi. Avec Tony Lee Chang-Yui, Léa Seydoux, Luna Walder. L'histoire, eh bien, c'est dans un jardin botanique. Un arbre veille et observe, témoin patient des siècles. En 1908, il suit Grete, qui lutte pour exister dans un milieu qu'il ignore. Dans les années 70, il voit Hannes s'éveiller à l'amour et au monde des plantes. Mal, aujourd'hui, le vieil arbre parle avec Tony dans son langage secret. Autour de lui, certains se cherchent, d'autres se rencontrent. Lui demeure, ami silencieux, dans un temps plus vaste que le leur. Mmh. Et bien en fait, c'est un peu cet ami silencieux qui va traverser le temps, ces arbres ou tous ces bâtiments, qui voit défiler un peu le temps, qui voit défiler toutes les personnes, des histoires et des époques, oui, et qui reste planté là, vraiment bien enraciné.
Il semblerait que c'est le film vu du point de vue
de l'arbre, en quelque sorte, oui. quoi. Ça a l'air d'être en tout cas un très joli film. Et la réalisatrice est hongroise.
Elle est hongroise, oui.
Voilà, tout à fait.
Depuis tout le temps, oui.
Et voilà, ça s'appelle Silent Friends.
D'accord.
Et ça sort demain très dans bien. Les salles.
Alors moi, je vous propose, parce que pour les films canapés de tout à l'heure, c'était sur la paranoïa, sur la guerre du Vietnam.
Oui.
Là, je vous propose une comédie.
Ah bah tant mieux.
Comédie signée Gérard Jugnot.
Très bien, ça fait longtemps.
Qui s'appelle Mauvaise Pioche. Alors donc, c'est l'histoire de Serge Martin, qui est un paisible retraité. Et en fait, il est arrêté par erreur. Et il est confondu avec l'homme le plus recherché de France. Alors, il va être propulsé très rapidement au cœur d'une tempête médiatique. Et il devient, malgré lui, le visage d'un scandale national. Alors, tandis que les chaînes d'information en continu s'emballent sur lui, Serge va tenter de prouver son innocence dans un système administratif, n'est-ce pas, dépassé par ses propres erreurs. C'est une comédie, mais pour la Jugnot, semble-t-il, s'est inspiré de l'affaire de Ligonnès.
Ah oui, d'accord.
Mais traité de façon
un peu plus légère.
Mais d'après ce qu'en disent les premiers spectateurs qui ont la chance de le voir, il paraît que c'est une petite perle de la comédie à la française.
Bien,
il est rare que Jugnot rate ses films.
C'est vrai qu'en général, il y a toujours de la finesse et un fond assez...
que là, il est accompagné dans le film par Philippe Lachaud, Thierry Lhermitte, Sabu Breitman, Jean-Pierre Darroussin, François Morel, Philippe Duquesne. Enfin bref, une grosse distribution. Ça s'appelle « Mauvaise pioche » donc et ça sort demain matin, comme le film de votre réalisatrice
hongroise.
Comme
Silent Friend,
absolument,
tout à fait.
Voilà.
Voilà, Cinescence est déjà fini.
Écoutez, je m'en doutais un petit peu.
Hein.
Oui.
Enfin bon, jusqu'à ce que tout recommence.
Eh bien sûr.
Et vous pouvez maintenant vous rendre dans les salles noires et obscures pour voir un maximum de films.
Oui.
Mais en attendant, n'hésitez pas à nous réécouter en podcast sur le site d'Odeur Radio ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
D'accord.
Eh bien, la semaine prochaine, vacances oblige, il n'y aura pas de Cinescence. C'est donc le mardi. Pourquoi mercredi ?
Mais pourquoi ?
Mais je sais pas. Oh là là, Jean-Jacques, vous dites n'importe quoi.
Oui,
c'est donc le mardi 14 avril que nous nous retrouverons en direct et on parlera des westerns.
Et ce sera à 14h sur Odeur Radio 91.3, bien entendu. Alors, comme d'habitude, nous finissons en chanson avec la perle du jour. Et on reste en 2001, puisque le 1er janvier, le trio Chanson plus Bifluoré sortait leur double album, qui s'est intitulé « Pour de vrai, pour de rire ». Alors on y retrouve une chanson hommage à un petit métier, comme on dit, qui a tendance à disparaître, la réglementation étant très stricte. C'est le pêcheur de pibale. Alors la pibale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un petit poisson qui se fait de plus en plus rare. Voilà.
Allez, bonnes vacances et en attendant,
bon vent à tous.
Je suis le pêcheur de pibale, je plonge mon tamis dans l'eau. Des fois c'est lourd, ça me fait mal, et l'hiver me glace le dos. Quand j'en attrape des pibales, je les garde dans un grand seau. C'est que ça vaut cher la pibale, jusqu'à 1000 francs le kilo. Je les revends aux Espagnols, faut dire que c'est très recherché. Là-bas, les femmes en sont folles, de l'autre côté des Pyrénées. Ce sont ces petites anguilles, ces civelles, ces alevins, qui ont fait vivre ma famille et pas mal de gens dans le coin. Quand je suis la nuit sur la berge et que j'entends pleurer le vent, au loin je vois briller les cierges des marins morts depuis longtemps. Mais je ne fais pas volte-face, les pipales sont en chemin, venant de la mer des Sargasses, vers leur immuable destin. Certaines échapperont au piège, disons 200, 300 millions. Certaines auront le privilège de devenir de gros poissons. De Cabreton jusqu'à Bayonne, de vieux boucaux à Mimizan. Hier soir la pêche a été bonne, le sera-t-elle pour nos enfants? Je suis le pêcheur de pibale, je plonge mon tamis dans l'eau. Des fois c'est lourd, ça me fait mal, et l'hiver me glace le dos. Je suis le pêcheur de pibale.